Bonjour à tous.
Voilà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser que vous avez eu un peu l'idée du siècle. C'est-à-dire, ça peut être, vous dites, bah tiens, si on allait à tel endroit en vacances, ou tiens, si tel cadeau, ça plaisait à mon proche, à mon ami, à... voilà. Ou tiens, si je m'engageais dans tel ou tel ministère pour Dieu, et du coup, vous en parlez avec vos proches, et vous dites, ah, c'est super et tout, ils vont valider, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est un peu la douche froide. Ils ne sont pas forcément favorables à ce choix. Par exemple, vous vouliez partir à Madagascar, mais la personne veut partir en Corée. Voilà. Par exemple, vous pensez que vous avez un don pour la louange, alors qu'en fait, la personne que vous êtes allé voir vous dit que c'est peut-être pas votre don. Et voilà, on pourrait continuer encore comme ça avec d'autres situations. Et David, le roi David, a vécu une situation qui était similaire. En fait, il a voulu construire une maison pour Dieu, comme on l'a lu dans ce passage. Et il se trouve que ce n'était pas forcément la volonté de Dieu pour lui. Et on va voir ensemble le texte qui en parle. Mais avant cela, un petit rappel du contexte. Le thème de notre église, hein, vous le savez, c'est l'espérance. Okay, c'est l'espérance. Et depuis janvier jusqu'à maintenant, on a vu plein de textes depuis la Genèse. On est passé par le Pentateuque, donc les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, jusqu'à cette période un peu des rois, et particulièrement du roi David. Et nous avons vu que avec Harry Noël, la semaine dernière, sur le psaume 110, que le Messie est notre roi et notre sacrificateur. Donc, psaume 110, le Messie est notre roi et notre sacrificateur. Un peu plus en amont, il y a deux semaines avec Philippe, nous avons vu dans le psaume 22 que David / Jésus ont vécu des expériences déconcertantes, donc le fait de se sentir abandonné par Dieu, des expériences qui étaient menaçantes avec des ennemis et des expériences réjouissantes parce que Dieu répond dans ces situations-là et s'ensuit la louange. Dans le passage d'aujourd'hui, on est en 1000 avant Jésus-Christ environ et David a bien succédé à Saül comme roi d'Israël. Et la dernière fois j'étais sur scène, j'avais apporté un message sur 1 Samuel chapitre 16 avec l'onction de David. Vous vous souvenez? Eh ben, ça, c'est 15 ans après que David devient roi. 15 ans après David devient roi. Il parvient à conquérir dans 2 Samuel 5 la ville de Jérusalem. Parce que avant, cette ville de Jérusalem, qui est très très importante dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, cette ville était occupée par les Jébusiens. Et David y installe son palais. Et dans 2 Samuel 5 verset 10, il est écrit « David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. » Et donc du coup, il remporte plusieurs victoires contre les Philistins. Il fait déplacer l'arche de l'Alliance pour la placer dans une tente à Jérusalem dans 2 Samuel chapitre 6. Donc normalement, si vous étiez au groupe de maison, vous avez pu aborder ce texte. Et ce jour-là, David offre de nombreux sacrifices. Voilà, David, il est encore au début de son règne. On a l'impression que tout va très bien. Et finalement, qu'est-ce qui pourrait être meilleur que ce qu'il a déjà eu? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le passage d'aujourd'hui. Le message central d'aujourd'hui, c'est que Christ, le descendant de David, est notre roi éternel. Christ, le descendant de David, est notre roi éternel. Et je vous invite, au fur et à mesure qu'on va retourner dans le texte de 2 Samuel 7, de bien faire attention que finalement ce texte ne parle pas tellement du roi David, mais nous parle de qui est Dieu, nous parle de la souveraineté de Dieu, nous parle de la grandeur de Dieu, nous parle de sa puissance, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et oui, David est une personne que Dieu a utilisée, mais ce passage parle avant tout de Dieu. Et pour ce faire, je vais aborder ce passage en deux parties. D'abord en voyant que Christ est la maison que Dieu construit pour David. Et dans une deuxième partie, versets 17 à 29, que la louange et la prière est faite par David à son Dieu. Donc d'abord, Christ, la maison que Dieu construit pour David. Dans une première sous-partie, de verset 1 au verset 3, on voit que d'abord, c'est David qui envisage de construire cette maison pour Dieu. Donc ça, c'est un passage que sûrement on connaît tous très bien, donc je vais aller très vite dessus. C'est en lien avec ce qu'on a déjà dit avant. L'arche est à Jérusalem. Dieu donne du repos à David et il est installé dans son palais à Jérusalem. Il a délivré de tous ses ennemis. Et là, David, il se dit, mais moi, j'habite dans une maison en cèdre et ça se fait pas trop parce que l'arche de l'Éternel, elle est dans une simple tente. Dans une simple tente. Et il en parle au prophète Nathan. Le prophète Nathan qui était là pour l'accompagner, pour lui donner des conseils sur le plan spirituel. Et Nathan lui dit, vas-y, fais ce que tu as dans le cœur parce que l'Éternel est avec toi. Et je l'avais dit tout à l'heure dans 2 Samuel 5, verset 10, David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. Dieu était particulièrement avec David. Donc ça peut paraître logique que Nathan lui dise, vas-y, tout ce que tu as sur le cœur, vas-y, fonce. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas vraiment ce qui va se passer. Verset 4 au verset 16, on va voir qu'en fin de compte, c'est Dieu. C'est Dieu qui construit une maison pour David. Pas une maison en pierre, mais une maison en chair. Donc au verset 4, Dieu parle au prophète Nathan. Assez rapidement, il y a écrit la nuit suivante, verset 4. Et il lui fait savoir, en gros, qu'il n'a jamais demandé à ce qu'on lui construise une maison depuis le jour où il a libéré les Israélites d'Égypte, et que deuxièmement, ça va pas être David qui va y construire une maison. Et là, on voit que, si on revient à ma petite introduction du début, on avait l'impression quand même que l'idée de David était bonne en soi, mais en fin de compte, son projet n'était pas forcément le projet de Dieu. Son projet, le projet de David, n'était pas forcément le projet de Dieu. Et c'est même Dieu lui-même qui va s'occuper de corriger le tir. Et ça, je pense, ça peut être rassurant pour nous, de savoir que lorsqu'on part dans une mauvaise direction, Dieu nous rattrape et corrige le tir. Donc si je reviens à notre situation, où nous pensons qu'une idée qui nous vient à l'esprit est forcément bonne parce qu'elle vient de Dieu, eh bien, si nous ne soumettons pas nos pensées au Seigneur, si nous ne soumettons pas nos pensées au Seigneur, nous risquons de ne pas être dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Si nous ne soumettons pas nos pensées au Seigneur, nous risquons de ne pas être dans la volonté de Dieu. Et je vais lire dans Philippiens 4, verset 8. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Dans notre exemple, l'idée n'est pas forcément mauvaise en soi, mais elle n'est pas forcément approuvée par Dieu. Et j'ajoute aussi que nous avons besoin de sagesse, de discernement pour savoir si l'idée qu'on a dans la tête, est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce que c'est une idée qui vient juste de nous-mêmes avec nos capacités humaines et peut-être même que notre vieil homme a pris le dessus. Il nous a poussé à satisfaire nos désirs propres. Mais comme l'a dit Philippe dans sa prédication sur Galates 5 il y a quelques semaines, si nous avons l'Esprit Saint en nous, marchons par l'Esprit. On ne va pas se contenter juste d'avoir le Saint-Esprit, mais il faut aussi marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Paul rajoute dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, je pense que c'est un passage aussi qui est très important, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Je relis verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Ensuite, on voit du verset 8 au verset 10, que Dieu rappelle ce qu'il a fait pour David, tout ce qu'elle a mis en place jusqu'à ce moment culminant qui est l'apogée du royaume d'Israël, c'est-à-dire un bon roi qui plaît à Dieu, qui est selon le cœur de Dieu, et un culte qui est en train de se mettre en place dans ce royaume, un culte au Seigneur. Il dit au verset 8, au verset 10, qu'il l'a choisi parmi les bergers de ses brebis pour devenir le roi d'Israël. Et ça, c'était le passage que j'avais évoqué dans 1 Samuel chapitre 16. Il l'a accompagné partout où il a marché. Il l'a rendu célèbre. Il l'a délivré de ses ennemis. Il les a éliminés. Et à travers David, Dieu a donné un pays pour que Israël y réside en paix, pour plus qu'il soit opprimé comme par le passé, par les ennemis, comme on l'a vu dans la période des juges. Mais en plus, au verset 11, Dieu rajoute qu'il va lui-même construire une maison à David. En fait, il y a un jeu de mots. David dit « je vais construire une maison en cèdre, en bois », et Dieu lui dit « non, non, je ne parle pas d'un bâtiment, moi je vais te construire une famille, une dynastie, une descendance éternelle qui va siéger sur le trône d'Israël à Jérusalem. » Et effectivement, après David, il y aura un descendant dont Dieu affermira le règne pour toujours. Et ce sera ce descendant qui aura l'honneur de construire une maison en l'honneur du nom de Dieu. Et là, pour le verset 14 au verset 16, tu peux aller sur la slide, Denis, s'il te plaît. Nous allons voir plusieurs passages, et on va voir que à la fois on parle d'un descendant immédiat qu'on sait qui va être Salomon, mais également d'un descendant ultime qu'on sait qui va être Jésus-Christ. Alors dans le passage à ce moment-là, on ne sait pas encore que c'est Salomon, hein, parce que à ce moment-là, il n'y a pas encore eu le péché avec Bathsheba, donc il n'y a pas encore Mais on sait qu'il y aura un descendant de David, et on sait que nous, en tout cas avec le recul que nous savons que ce sera Salomon qui va notamment construire le temple. Donc si je prends le verset 14, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Donc là, pour le descendant immédiat, si on parle de Salomon, dans les faits, on sait que ça va être Salomon qui va... c'est aussi ce qu'a lu tout à l'heure notre frère David pendant la louange. Et ça va être Salomon qui va construire ce temple pour Dieu. Et il aura une relation aussi particulière avec Dieu. Dieu va apparaître deux fois dans une vision. Mais si on part aussi de ce sens de père-fils, on est en train de dire que Salomon est le fils de Dieu. Et en fait, quand on utilise le mot fils de Dieu, les mots, fils de Dieu, il peut y avoir deux sens. Alors, le sens que tout le monde connaît, c'est Jésus, fils de Dieu. Voilà. Jésus, fils de Dieu, là on parle du sens divin, okay, de la divinité de Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament, quand on parle de fils, fils de Dieu, on parle du sens royal. En gros, chaque roi est appelé fils de Dieu par adoption. Okay ? Et dans ce contexte qu'on a aujourd'hui, on ne savait pas encore que le descendant du roi David serait le fils de Dieu dans un sens divin. Et même ce qui se passe, c'est que même dans le Nouveau Testament, les Israélites attendaient le Messie, mais dans leur tête, ça serait un roi qui descendrait de David dans un sens royal, encore une fois. Et on sait que Jésus sera issu de cette descendance de David et il sera le roi d'Israël, pas dans un sens physique, militaire, mais dans un sens plus profond, un sens spirituel. Et on peut voir dans Hébreux chapitre 1, verset 4 à 6, Hébreux chapitre 1, verset 4 à 6, on parle de Jésus qui est supérieur aux anges. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Le passage qui est cité. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit « Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. » Encore une fois, on voit que cet aspect des anges qui se prosternent devant Dieu, on se prosterne devant qui ? Devant un roi. Donc, c'est vraiment l'aspect de Jésus, de la royauté de Jésus. Okay? Et plusieurs fois, on va utiliser le terme de Christ ou de Messie. Messie dans, en hébreu et Christ, la traduction en grec, ça signifie fils de Dieu. Ça signifie oint de Dieu dans le sens royal. Ensuite, si je continue, verset 14, donc la deuxième ligne du tableau, « S'il fait le mal, Dieu le punira avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. » Dans les faits, on sait qu'à un moment donné, Salomon, à la fin de sa vie, s'est laissé distraire dans sa relation avec Dieu par les 1000 femmes qu'il avait. Et il a connu un jugement qui est venu sur son royaume. Il n'en a pas souffert directement lui-même, parce que par égard pour son père David, Dieu lui a dit que ce serait ses descendants. Donc ses descendants ont connu des échecs, tous les descendants du royaume du Sud, et qui étaient en fait des punitions qui venaient de Dieu. A contrario, le descendant ultime, Jésus-Christ, lui n'a commis aucun péché. Il ne devrait même pas être puni par le bâton des hommes. Mais nous savons que le Seigneur Jésus a été battu par les hommes et torturé avant de mourir à notre place sur la croix. Verset 15, « Il ne retira pas sa grâce comme il a fait avec Saül. » Et ça, souvenez-vous, dans 1 Samuel 16, nous avions vu que Dieu retire le Saint-Esprit à Saül parce que Saül l'avait pour un temps. Et dans le Saint-Testament, le Saint-Esprit, on le recevait pour un temps, pour un objectif donné. Alors que dans le Nouveau Testament, quand on a le Saint-Esprit, on l'a pour toujours. Et ce descendant, du coup, c'est Salomon, dans un sens direct, immédiat. Et nous savons que Salomon va s'éloigner de Dieu, mais à cause de David, cette séparation du royaume, ce schisme, n'aura pas lieu de son vivant, mais après sa mort. Donc quelque part, il ne va pas retirer tout de suite sa grâce. Et pour Jésus, nous savons que Jésus a le Saint-Esprit en lui, et l'a toujours eu, et ça ne changera pas. Et verset 16, enfin, « Sa maison et son règne seront assurés pour toujours après David, son trône sera affermi pour toujours. » On sait que les descendants de Salomon, eux, seront rois que sur le royaume du Sud, le royaume de Juda, alors que le royaume du Nord sera à d'autres rois. Et des rois se sont succédés à la tête du royaume de Juda, donc Salomon, Roboam, etc. Et effectivement, il y a eu un roi à chaque fois qui s'est succédé de la même famille de David. Alors que dans le royaume du Nord, ce n'était pas des rois de la même famille. Donc quelque part, cette promesse de Dieu a été accomplie historiquement. Mais elle s'est accomplie aussi historiquement parce que Jésus est le Messie. Jésus est le descendant de David. Et le règne de Jésus est aussi éternel. Parce que Christ a accompli cette promesse. Et Dieu, il ne parle pas d'une succession éternellement. Éternellement, on va avoir un roi qui succède à un autre roi, un roi. Non, à un moment donné, on arrive au roi ultime. Et ce roi ultime, c'est Jésus. Et son règne va durer éternellement. Ce règne va durer éternellement. Alors oui, notre Seigneur Jésus-Christ est ce roi, ce descendant, annoncé par David 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant sa naissance. Et Dieu a utilisé cette prophétie de Nathan pour annoncer à la fois une réalité terrestre concernant le descendant immédiat de David, qui est Salomon, mais aussi le descendant ultime, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette maison que Dieu va construire pour David, eh bien, c'est une descendance qui va amener jusqu'à Christ. Mais après toutes ces annonces de Dieu à travers Nathan, nous allons voir maintenant la deuxième partie, comment David réagit. Avant tout, peut-être qu'on aurait pu se dire, David, il a un super plan. Le prophète lui dit, vas-y. Et en fait, le prophète revient et fait, petit changement au programme. En fait, gros changement au programme, donc avec tout ce qu'on vient de dire. Donc David, il aurait pu, mettez-vous à sa place, c'est toujours intéressant quand on lit les Écritures, d'essayer de nous dire, comment ça aurait été si on était à leur place à ce moment-là. Et ça, on se dit, pas sûr qu'on aurait fait mieux, Et David, il aurait pu être déçu à ce moment-là. Il aurait pu se dire, moi, je voulais construire cette maison pour Dieu, mais Dieu, il veut pas. Il aurait pu être amer. Et ça peut nous arriver aussi à nous. Mais en fait, pas du tout. David fait preuve d'humilité. Et ça, je pense, c'est un exemple pour nous aussi. David fait preuve d'humilité. Il reconnaît qu'effectivement, tout tourne autour de Dieu, de sa sagesse, de sa puissance, de sa souveraineté. C'est lui qui est au contrôle de tout. Moi, je veux construire, j'ai une idée, je veux construire un temple. Dieu dit, bah, c'est pas toi, ce sera ton descendant. OK. Et David fait preuve d'humilité avant tout au verset 18 jusqu'au verset 20 que je vous propose de relire ensemble. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis ? Et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain et tu consens en instruire un homme, Seigneur Éternel. Que pourrait te dire de plus David ? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel. » David s'incline devant cette décision de Dieu et accepte ce changement. Puis, David reconnaît cette souveraineté de Dieu qui découle de sa volonté et de ses promesses, comme on peut le voir au verset 21. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélées à ton serviteur. Et suite à cela, on voit que David reconnaît deux choses. La première, c'est qu'au verset 22, nul n'est semblable à Dieu. Nul n'est comparable à Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Première chose que fait David dans sa prière, c'est de dire que Dieu est incomparable. Deuxième chose que fait David dans cette prière, nulle nation n'est semblable à Israël. La nation d'Israël a été rachetée par Dieu en Égypte. Et ce Dieu lui a révélé son nom, Yahweh. Cette nation a vu des miracles qui ont été réalisés par Dieu pour le délivrer de ses ennemis, pour entrer enfin dans cette terre promise dont David est le roi. David se rappelle ce que Dieu a fait pour son peuple. Il reconnaît aussi que Dieu a affermi Israël pour qu'il soit son peuple pour toujours et que lui soit son Dieu. Et ensuite, au verset 25, David commence à faire ses requêtes en reprenant les promesses que Dieu vient de faire. Et il demande trois choses. La première, c'est de faire subsister cette promesse qui est promise à sa propre descendance. La deuxième chose, c'est que la grandeur du nom de Dieu soit connue de tous, afin que tous disent « L'Éternel, le maître de l'univers, est le Dieu d'Israël. » L'Éternel, le maître de l'univers, est le Dieu d'Israël. Donc il y avait une fonction de témoignage aussi pour les peuples alentour. Et enfin, il demande aussi à ce que sa maison, donc sa descendance, sa dynastie, soit affermie devant Dieu. Et on va lire ensemble verset 24 au verset 29 de nouveau. « Tu as affermi ton peuple Israël pour qu'il soit ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. » Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille et agis comme tu l'as dit. Que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant l'éternel le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. En effet, c'est toi-même, éternel maître de l'univers, Dieu d'Israël, qui t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te construirai une maison ». Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. Je vous invite à regarder les termes qui sont utilisés dans le verset 24 jusqu'au verset 29. Donc si on revient au verset 24. Tu as affermi ton peuple, Israël, pour qu'il soit ton peuple pour toujours. Ensuite, au verset 25, « Fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée. » Verset 26, « Que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom. » Et verset 29, si tu peux aller, « Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. Et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. » Donc on a cette répétition de ces termes hein, qui veulent dire que cette notion d'éternité. Et ça, c'est lié au fait que ce trône n'aura pas de fin. Et c'est David qui s'appuie sur les promesses de Dieu, ce qui est très clair pour David à ce moment-là. Et David explique qu'il a trouvé le courage d'adresser à Dieu cette prière, parce que Dieu s'est révélé à lui. Et enfin, il conclut sa prière en demandant à Dieu de bénir sa famille pour qu'elle puisse subsister éternellement. Et comme j'ai déjà dit, à ce moment-là de sa vie, David, il est au summum, il est vraiment à l'apogée de son règne. Et après cet épisode qu'on lit aujourd'hui, il va encore remporter de nombreuses victoires militaires jusqu'au relâchement fatal qu'il va avoir avec l'épisode de l'adultère avec Bathsheba. Alors comment on peut voir ce texte pour nous aujourd'hui? Eh bien déjà, je crois que tout ceci témoigne de la foi de David. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que nous aurions réagi de la même manière? Si nous avions un projet que nous soumettons à Dieu et qu'il nous dit « pas toi » ou « pas tout de suite », comment est-ce que nous aurions réagi? Est-ce que nous, si nous étions à la place de David, est-ce que nous n'aurions pas été frustrés de ne pas pouvoir construire nous-mêmes le temple? Eh bien là, je pense que Dieu nous appelle à prendre exemple sur David et sa foi. Il s'est soumis à la volonté de Dieu et à ses commandements. Parce que ce qui prime le plus, c'est le projet de Dieu et non le nôtre. Ce qui prime, c'est le projet de Dieu et non le nôtre. Ce qui s'accomplit, c'est le plan de Dieu. Donc recherchons la volonté de Dieu. Et si je ne suis pas l'acteur principal d'un projet que Dieu m'a mis à cœur, c'est pas grave. David avait compris que ce serait son fils Salomon, plus tard, quand ce sera la fin de sa vie. Ça serait lui qui construirait le temple pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté les bras croisés? Non, pas du tout. Il a préparé tous les matériaux qu'il fallait. Il a tout préparé, mis à part, pour que, au moment voulu, Salomon ait tout à disposition pour construire ce temple pour Dieu. Dieu a des projets qui nous dépassent, nous qui sommes temporels et temporaires sur cette terre. Et lui, à côté de cela, il est éternel. Et c'est dans ce sens que je pense que Jacques écrit dans Jacques 4, versets 11 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Nous ne savons pas quand est-ce que notre vie va s'arrêter. On peut faire des projets, mais avant tout, cherchons la volonté de Dieu pour notre projet. Et ça veut dire qu'il faut faire encore plus attention quand nous voulons utiliser des termes comme « Dieu m'a mis à cœur » ou « Dieu m'a dit de te dire que... » Alors, bien sûr, il y aura des cas particuliers, hyper précis dans notre vie où on saura que c'est vraiment l'appel de Dieu, qu'il y aura une conviction profonde, très, très ponctuelle aussi. Mais en général, nous ne pouvons pas toujours être sûrs que ce que nous avons à cœur, c'est vraiment le projet de Dieu. Donc attention au « Dieu m'a mis à cœur » ou « Dieu m'a dit de te dire que ». À la limite, il vaut mieux dire « J'ai à cœur de te dire », comme ça, il y a un peu moins de risques. Voilà. Ou alors, c'est après coup. Souvent, c'est après qu'une situation s'est passée qu'on peut voir « Ouais, effectivement, c'est... J'avais ça dans mon cœur, mais je me rends compte que c'était Dieu qui m'avait mis à cœur. » Souvent, c'est après coup. C'est quand on voit le résultat, qu'est-ce qu'il en est, quelle a été la conséquence de ce que j'ai fait, qu'on voit que seulement Dieu avait béni cela et c'était vraiment la volonté de Dieu à mon égard. Donc cherchez le plan de Dieu et non le nôtre. Et deuxième application pour nous aujourd'hui, ça c'est par rapport à la prière. Je crois qu'on peut s'inspirer grandement de David pour la prière. Qu'est-ce qu'il a fait, David ? Il n'a pas demandé direct à Dieu de le bénir, de lui donner ce qu'il avait besoin. Non, il a commencé par connaître qui était Dieu. Il a commencé par déclarer qui était le Dieu de l'univers et qu'il n'y avait pas de Dieu comparable. Un peu comme ce qu'on a fait dans cette louange aujourd'hui. Ô Dieu, tu es grand. Puis il s'est rappelé aussi qui il était dans son humilité. Et nous aussi, on peut le faire, reconnaître que nous sommes finis, limités. Et on peut aussi se rappeler que l'Église, c'est le peuple que Dieu s'est racheté par le sang de Jésus-Christ. On peut faire aussi le lien avec les promesses de Dieu dans sa parole et nous en imprégner. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. David, il reçoit cette promesse de Dieu à son égard. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prie pour que la promesse s'accomplisse. Mais il aurait pu juste dire, ok. Mais non. C'est ça la foi, en fait. C'est la promesse, on y croit, on a cette foi dans cette promesse. Et on va prier en vertu de cette promesse. Avec cette promesse, on va s'en saisir et on va prier cette promesse. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tous ces passages, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés. Si vous êtes fatigués, chargés en ce moment, priez avec foi que cette promesse de Jésus qui nous dit qu'il nous donnera du repos s'accomplit vraiment dans notre vie. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons lui adresser des prières et lui demander aussi sa bénédiction. Mais ne cherchons pas à voir Dieu directement comme un distributeur automatique de, non pas de billets, mais de bénédiction. Ne cherchons pas à voir Dieu comme un distributeur automatique de bénédiction. Demandons même à notre Seigneur quand nous lui faisons des requêtes de prière. Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, accomplis cette prière. Cherchons sa volonté encore. Et je crois que David, c'est un bon exemple d'équilibre dans la prière. Donc essayons, tous ensemble en tant qu'Église, et moi le premier, de nous inspirer des prières de David pour être encore plus en phase avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu et ses promesses pour inspirer nos prières. Une des applications possibles serait de rejoindre un groupe de maison ou la prière du samedi matin. Avant de conclure, ce que je retiens, c'est que ce qui semblait petit à David, le fait que la présence de Dieu semble être sous une tente, en fait, était bien plus grand. Non pas à cause du contenant, c'est-à-dire la tente en elle-même, mais à cause du contenu, la présence de Dieu. Ce qui semblait petit à David était en réalité bien plus grand, non à cause du contenant, mais à cause du contenu, qui était la présence de Dieu. Et c'est vrai que parfois, on a un peu tendance à oublier que dans le mot « éternel », il y a la notion d'éternité. Et c'est ce Dieu qui est en dehors du temps, qui dit au roi David, à un moment donné, qui va faire d'un de ses descendants son fils, avec un trône affermi pour toujours. Or, on sait qu'aucun homme n'est éternel, si ce n'est Jésus-Christ, qui est pleinement homme. Et c'est pour ça que ça peut s'accomplir, mais aussi pleinement Dieu. Il s'est incarné, il s'est sacrifié sur une croix en portant nos péchés. Il est ressuscité et aujourd'hui, il règne à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Notre roi serviteur Jésus-Christ règne pour toujours dans le ciel, selon le plan éternel de Dieu son Père, l'Éternel. Notre roi Jésus-Christ règne pour toujours dans le ciel. Ce descendant de David règne pour toujours. C'est l'accomplissement de ce qu'on vient de lire ensemble, selon le plan de Dieu. Et seul un grand Dieu peut faire de grandes promesses. Et on voit cette promesse au roi David qui fait écho à deux promesses précédentes qui ont été faites. La première, c'est dans Genèse 3:15, avec la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et ça se précise un peu plus. Le lien aussi avec la promesse qui est faite à Abraham dans Genèse 22. Une descendance qui va être aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable de la mer. qui va posséder les villes de ses ennemis. Ah tiens, on vient de parler de conquête militaire de David. Promesse, donc un lien avec la promesse de Genèse 3:15 et promesse aussi avec un lien avec la promesse de Abraham dans Genèse 22, avec cette descendance qui sera aussi nombreuse. Et là, on voit que cette descendance de la femme, issue de la femme, et cette descendance aussi nombreuse, parce que le peuple d'Israël était très nombreux à ce moment-là, eh bien, parmi cette descendance, il va y avoir la descendance du roi David qui va régner éternellement. Non pas sur seulement Israël, mais sur tout l'univers, comme on l'a chanté, Dieu de tout l'univers. Et la promesse qui est faite à David est très importante à ce stade du récit biblique. Et on va lire ensemble dans le psaume 89, donc j'ai pris quelques extraits, verset 4 et verset 5 et verset 21 au verset 30. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. Ensuite, verset 21 à 30. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra pas le tromper ni le méchant l'opprimer. J'écraserai ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le détestent. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront et sa force grandira par mon nom. J'étendrai sa domination sur la mer et son pouvoir sur les fleuves. Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois sur la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle et son trône durera autant que le ciel. Donc on parle encore une fois de cette promesse qui a été faite, hein, qui est retranscrite dans le psaume 89. Vous voyez comment la Bible parle à la Bible. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Effectivement, Dieu est le Père du roi descendant de David, qui sera Jésus-Christ. Je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Ce sera le cas pour Salomon, ce sera aussi le cas pour Jésus, d'une manière ultime. Et je donnerai une descendance éternelle et son trône durera autant que le ciel. Le règne de Christ n'aura pas de fin. Et cette promesse d'un descendant de David, qui est le Messie, qui va être le futur roi d'Israël, au moment du Nouveau Testament, au moment où Jésus survient, eh bien, elle est dans les têtes des Israélites à ce moment-là. Et c'est pour ça que Jésus sera reconnu par certains comme le fils de David. Il me semble qu'il y a une histoire avec un lépreux qui dit « Fils de David », par exemple. « Guéris-moi ». Nathanaël aussi qui dit « Fils de Dieu ». On parle de l'aspect royauté de Jésus à ce moment-là. Et cette promesse, c'est une promesse qui annonce aussi donc le règne de Jésus-Christ à la fois sur Israël, mais aussi sur le monde entier au moment de son retour, au moment où Jésus reviendra. Il y aura ce règne éternel aussi. Et nous avions vu la semaine dernière dans le psaume 110 qu'il nous faut un roi, souvenez-vous avec Harry Noël, il nous faut un roi pour régner sur nous, Jésus-Christ. Et il peut prendre l'autorité que personne n'a d'autre. Il est le seul à avoir toute autorité. Et personne d'autre que lui ne peut le faire sur la terre. Aucun système politique, aucun leader ne peut faire le poids devant ce Messie, parce qu'il est Dieu. Il a autorité sur toute notre vie et notre monde brisé ne peut être restauré que par celui qui a toute autorité. Ne mettons jamais notre confiance dans notre leader que Jésus. Pas même un pasteur, un prédicateur, mais mettons notre confiance avant tout, en priorité, en Jésus-Christ. Ce texte parle de cette promesse d'une dynastie sans fin. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Eh bien, c'est Christ qui accomplira ultimement cette promesse. Il n'y aura pas d'autres descendants de David après ce roi Jésus-Christ parce que, étant pleinement homme et pleinement Dieu, Jésus régnera pour l'éternité. Pour conclure, nous avons vu que, premièrement, Christ est la maison que Dieu construit pour David. Et nous avons vu que David adresse des louanges et des prières à son Dieu. Et pour comme message central, retenons que Christ, le descendant de David, est notre roi éternel. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce texte si connu, mais si profond, Seigneur. Seigneur, parfois nous perdons de vue cet aspect de la royauté de Jésus-Christ, et parfois nous insistons sur le côté sauveur de Jésus-Christ, et nous oublions ce côté Seigneur, et ce côté roi, ce côté crainte de son nom. Et Seigneur, encore aujourd'hui, nous te prions pour que tu nous aides à ne pas faire de projet en disant à chaque fois que ça vient de Dieu, mais au contraire de reconnaître que, eh bien, nous cherchons ta volonté, Seigneur, dans nos projets. Seigneur, nous voulons avoir cette communion avec toi, Seigneur, plus profonde, afin de mieux comprendre quelle est ta volonté, Seigneur, pour chacune de notre vie, Seigneur. Chacune de nos vies, pardon, Seigneur. Je te prie pour que tu puisses nous guider également, Seigneur, pour que tu nous aides à mieux prier, Seigneur, à moins demander des choses, mais à plus à reconnaître qui tu es, ou alors à prier pour d'autres choses qui sont vraiment des priorités pour toi, Seigneur, mon Dieu. Et pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous te voyons comme un Père Noël, comme un distributeur automatique, Seigneur, mais Seigneur, nous ne voulons pas de cet évangile de prospérité, Seigneur, qui nous dit que on sera plus béni si on donne plus, ou voilà, si on a plus de foi, on sera forcément plus béni matériellement. Nous ne voulons pas de cela, Seigneur, parce que tu es ce roi, mais tu es également ce roi serviteur qui s'est délaissé de tout, Seigneur, qui a tout quitté le ciel pour devenir un simple homme, pour souffrir pour nous, pour porter nos péchés, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu es ressuscité et qu'à la Pâque, à chaque fois, nous pouvons célébrer cette résurrection, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous fortifier encore dans notre foi, afin que nous puissions te louer et te prier de la plus belle manière qui soit, de la manière qui soit conforme à ta parole, à la Bible. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.